des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Dans un monde scientifique essentiellement masculin, notre invitée fut la première femme directeur scientifique de l'INRA. C'était en 1982. Elle fut également la première femme à présider l'Académie d'agriculture de France, 15 ans plus tard, en 1997. Parcours s'intéresse à Suzanne Mériot, qui nous fait le plaisir d'être au studio de Canal Académie. Suzanne Mériot, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie, vous êtes aujourd'hui directeur de recherche honoraire de l'Institut National de la Recherche Agronomique, en d'autres termes l'INRA, également membre de l'Académie d'agriculture dans la section ressources naturelles, aménagement de l'espace et environnement. Au cours de cette émission, nous évoquerons les thèmes suivants. Alors bien sûr, votre entrée à l'INRA et cette ascension permanente qui vous mènera très rapidement à diriger un centre régional, puis à prendre en main la direction scientifique de l'INRA. Également, nous parlerons de votre regard sur l'évolution de la féminisation de la recherche et de la décentralisation en région. Et là, je me base sur un document que l'on trouve facilement sur Internet où vous évoquez ces questions. Bien sûr, votre entrée à l'Académie d'agriculture et puis vos activités actuelles et notamment la publication d'ouvrages entre science et poésie, Deux voies de la connaissance, paru en 2003, ou encore Et l'homme a paru, une lecture de l'histoire de l'homme et publiée également très récemment, en 2007. Avant d'aborder ce visage original de la scientifique poète et de cette unité entre la science et la littérature, reprenons, si vous le voulez bien, le fil chronologique qui nous mène très rapidement à l'INRA. Vous commencez comme institutrice. Et comment bifurquez-vous dans ce domaine spécifique de la recherche, Suzanne Mériot?
Eh bien, la recherche, en fait, j'ai toujours eu envie de faire de la recherche. Et initialement, je pensais faire de la recherche médicale. Et ayant dû interrompre mes études pour être institutrice, comme vous l'avez rappelé, j'ai repris des études, à ce moment-là, des études sciences de la nature, en géologie, en minéralogie. Ce qui m'a conduit à rencontrer... C'est le premier hasard heureux de ma vie, à rencontrer mon mari, qui était ingénieur agronome à l'École nationale du génie rural et qui avait rêvé de faire la recherche et qui allait... À l'époque, il n'avait pas pu choisir de faire la recherche parce que la recherche n'était pas suffisamment rémunérée et on déconseillait aux élèves sortant de l'agro de choisir cette voie. Et la nostalgie qu'il avait de la recherche m'a conduite à proposer ma candidature à l'Institut national de la recherche agronomique qui avait été récemment créé.
Donc ça veut dire qu'en commençant comme étant institutrice, c'était une voie, on va dire, pendant un temps, une voie particulière, mais parce que vous saviez que vous alliez faire de la recherche plus tard.
Oui, je l'ai toujours pris comme ça, c'était vraiment très temporaire et de toute façon, je pensais que je n'étais pas tout à fait douée pour l'enseignement. Parce que j'ai tellement de mal à me concentrer pour être face à mon public que c'est tout à fait épuisant. Et donc, j'ai rejoint mon souhait initial qui était de faire de la recherche. Et dès que j'ai pu, j'ai fait les études nécessaires pour cela. Mais j'aurais pu faire une carrière dans l'enseignement supérieur, ce qui sans doute n'aurait pas été bon, puisque, comme je viens de vous le dire, j'éprouve beaucoup de difficultés à me concentrer vis-à-vis des élèves.
Mais alors, revenons à la recherche. Donc, vous suivez votre mari. Pour le coup, on retrouve le schéma, on va dire, classique, où c'est l'épouse qui suit l'époux, tout simplement. Vous commencez à Versailles et après, vous descendez à Dijon.
J'ai eu du mal à commencer, j'ai eu du mal à entrer parce que j'étais une femme et que je ne sortais pas de l'agro, que je sortais de l'université. Et il a fallu le concours et la bienveillance de M. Hénin, qui était au contraire très intéressé par ma candidature parce qu'il s'occupait de physique du sol. Il a fallu donc cet accord de M. Hénin pour que je puisse entrer à l'INRA, ce que je n'ai jamais regretté.
Donc nous sommes à la période des années 50 à peu près, pour situer mon contexte.
En Nous sommes en 47.
En 47. Comme vous le disiez à l'instant, le domaine de la recherche accueillait encore difficilement les femmes.
Difficilement les femmes et pas du tout quand elles ne sortaient pas de l'agro. C'était vraiment un handicap pour moi.
Bon, j'espère que depuis, les choses ont changé.
Les choses ont beaucoup changé.
Donc, pendant un temps, vous travaillez à Versailles.
Je travaille à Versailles, mais en même temps au Muséum d'Histoire Naturelle, parce que M. Hénin, qui était donc mon patron, dirigeait le laboratoire de physique des sols à Versailles et travaillait au Muséum d'Histoire Naturelle dans le service du professeur Orcel sur les argiles.
Qui sera d'ailleurs le thème que vous allez développer aussi un peu plus tard à Dijon lorsque vous suivez votre époux.
Voilà.
Donc vous entrez à l'INRA donc en section. Alors est-ce qu'on parle de section, est-ce qu'on parle de département pour l'INRA lorsqu'il y a comme ça des...
C'était, oui, le département qui s'appelait agronomie à l'époque. C'était le département d'agronomie. Monsieur Hénin était rattaché un peu marginalement d'ailleurs avec la physique du sol qui n'était pas du tout dans l'air du temps à l'époque. Il était très novateur, mais c'était quand même le département agronomie. L'INRA était en département, il est toujours d'ailleurs.
Donc, dans les années 50, je suppose, ou 55, vous descendez sur Dijon.
Ah, mais beaucoup plus tôt.
Beaucoup plus tôt, pardon.
Oui, en 48, mon mari était nommé à Dijon. Et c'est une ville qui avait été choisie, que ses collègues l'avaient laissé choisir parce qu'il y avait une université, justement, et qu'il y avait aussi l'INRA à l'époque. Mais enfin, c'était une INRA balbutiante.
Donc justement, vous allez assister, puisque vous allez y rester 24 ans hein, dans ce centre, vous allez prendre en main ce département, vous initiez des recherches en pédologie, et qui correspondent à la science du sol à peu près. Hein. Enfin, j'aimerais pas non plus me tromper, mais...
Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, l'agronomie s'intéressait essentiellement à la surface des sols et aux problèmes de fertilisation. Et moi, avec mes débuts et ma liaison constante avec M. Hénin, qui me faisait faire une thèse d'ailleurs... à la faculté en parallèle, je m'intéressais beaucoup justement au sol en tant qu'entité, formation, évolution, etc. Donc c'est pour ça que j'avais entrepris une étude des sols de la région.
Oui, surtout dans une région viticole où je suppose que les viticulteurs devaient être d'autant plus intéressés par vos recherches.
Ah oui, tout à fait. Oui. Mais c'était une région qui avait 8 départements, donc c'était très vaste et les sols étaient très variés. C'est intéressant d'ailleurs.
Donc une discipline nouvelle, entre guillemets, puisque vous alliez plus en profondeur.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'était assez nouveau puisque la plupart des stations d'agronomie étaient orientées sur la fertilisation. Et que les études de pédologie étaient plus le fait de l'université à Nancy, etc., ou alors STOM, qui est maintenant l'IRD.
L'IRD. Quand vous entrez dans ce centre INRA, vous êtes très jeune et on vous donne très rapidement des fonctions de direction. Comment ça se passe? Vous êtes laissée un peu toute seule à diriger cette unité, comment ça se déroule?
Ah, j'ai toujours été toute seule finalement dès mon entrée à Dijon, parce qu'à Versailles j'étais encadrée, mais dès que j'étais à Dijon j'étais seule pour décider de ce que j'allais faire. Et vraiment c'était, je l'ai beaucoup regretté parce que c'était une sensation d'isolement qui serait insupportable maintenant, qui n'existe pas d'ailleurs.
Parce que c'était les débuts de la délocalisation de la recherche, par exemple, ou de ce fait...
C'était les débuts de la recherche agronomique tout court.
En 1960, on avance un peu dans le temps, en 1960, vous devenez directrice de l'INRA à Dijon, et jusqu'en 1972, quelles sont les grandes impulsions que vous allez pouvoir donner au cours de ces 12 ans de direction à l'INRA?
J'en ai profité pour justement faire évoluer un peu les axes de cette station qui auparavant, donc, je l'ai dit, était centrée sur la fertilisation. On a beaucoup développé les études pédologiques, les études de physique du sol et on a gardé un secteur de chimie du sol mais qui était beaucoup plus approfondi avec des recherches beaucoup plus fondamentales.
Donc le développement des études pédologiques, comme vous venez de nous le dire, le développement de la chimie du sol et de la physique du sol, et également l'eau, qui va devenir vraiment un travail sur lequel vous allez vous passionner. L'eau, mais alors sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'alimentation, les ressources, parce que l'eau, finalement, c'est très vaste.
J'ai commencé à m'intéresser à l'eau à partir des études pédologiques. Parce qu'en étudiant les sols, on voyait un peu leur perméabilité, leur porosité. Et donc, j'ai vu l'eau circuler. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressée à l'eau sur le plan physique, la circulation de l'eau, la stagnation, le drainage. Et petit à petit, je me suis intéressée davantage, pas davantage, mais en complément, à l'eau dans ses fonctions nutritives pour la plante. Après avoir étudié l'irrigation, le drainage, j'ai étudié des problèmes qui étaient liés aux besoins en eau de la plante.
Voilà. Au stress hydrique des plantes.
Au stress hydrique des plantes, voilà.
Lorsque l'on lit, puisque comme je le rappelle, je me suis appuyée sur un document que l'on trouve sur le site de l'INRA, à l'occasion des 60 ans de l'INRA, lorsque l'on lit vos propos, vous expliquez donc en 1971, vous décidez de changer de cap, ou en tout cas, voilà, vous étiez pendant 24 ans à Dijon, vous décidez de partir pour changer d'air et puis pour essayer de vous renouveler.
Oui, voilà, j'ai été depuis 24 ans à Dijon et il y avait 12 ans, je crois que je dirigeais cette station, ce laboratoire. Et je trouve que vraiment, 12 ans, c'est beau. On est habitué aux mêmes personnes, à leur même façon de travailler, à leur même façon de penser. Et donc, vis-à-vis de soi-même, ça n'est pas stimulant. Donc, sur le plan professionnel, j'avais souhaité changer. Sur le plan familial aussi, mon mari, qui était dans une profession où la mobilité est requise, était bloqué par le fait que l'INRA ne voulait pas que je quitte Dijon. Tout ça a fini par s'arranger et donc j'ai changé de site, j'ai changé de partenaire et je suis toujours restée sur l'eau puisque mon partenaire a été la compagnie du Baron.
La compagnie du Baron.
Oui, où j'ai trouvé des gens intéressants et notre collaboration a permis de donner plus de recul et peut-être plus de fondamentalisme aux recherches qui étaient poursuivies, qui étaient des recherches intéressantes.
La compagnie du Baron à Nîmes, quelques mots peut-être sur cette compagnie?
C'était une compagnie d'aménagement du territoire qui avait été fondée par Philippe Lamour, qui était vraiment le grand fondateur de ce type de société. Et c'est une société qui donc avait pour but d'aménager le Baron-Languedoc sur le plan hydraulique. Au moment où j'y étais, cette compagnie était en plein essor. Il y avait plus de 800 personnes. Et depuis, les choses ont évolué. Les structures ont changé.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Suzanne Mériot, dans la deuxième partie. Nous remonterons à Paris et nous parlerons bien sûr de votre entrée en tant que directeur scientifique à l'INRA. À tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Suite de notre émission Parcours en compagnie de Suzanne Mériot, nous retraçons votre carrière, Suzanne Mériot, carrière bien sûr effectuée à l'INRA. Juste avant de faire la pause, nous étions à Nîmes, au sein même de la compagnie du Baron, où vous étiez mise à disposition par l'INRA pour travailler sur toutes les questions d'hydrologie. Au bout de combien de temps vous décidez de monter sur Paris?
Eh bien, je n'ai pas décidé. On a décidé pour moi, en ce sens que mon mari, qui était donc directeur départemental de l'agriculture dans le Gard, a été nommé ingénieur général, ce qui impliquait une mobilité immédiate. Et il a été nommé directeur du CETEGREF à Antony. Le CETEGREF est l'un des ancêtres du CEMAGREF actuel. Moi, j'ai suivi, bien sûr. J'ai été un peu encombrante parce que j'ai été directeur de recherche et on ne savait pas trop où me mettre. Donc, j'ai été chargée d'une mission auprès du directeur général, du président directeur général, Jacques Poli, pendant 3 ans, j'ai eu une mission sur les problèmes de l'eau à l'INRA, avec la rédaction d'un livre collectif, ce qui m'avait bien intéressée d'ailleurs. Et...
Si nous faisons un arrêt, avant de poursuivre dans les années, si nous faisons un arrêt, justement, comme vous, vous avez travaillé pendant de nombreuses années sur la question de l'eau, et là, donc, c'est dans les années 80, je suppose, que vous réalisez cet ouvrage. Est-ce que les questions sur l'eau, les questions de pénurie ou les questions de sensibilisation, vous avez vu une évolution sur les questions qui se posaient actuellement?
C'est-à-dire que nous avions fait un tour d'horizon qui était assez complet, qui était vraiment, c'était un bon livre. Mais depuis, et surtout ces dernières années, il y a, comme vous le savez, les changements climatiques qui modifient beaucoup le régime hydrologique avec, on le sait, enfin on ne sait pas exactement ce qui se passera, mais on sait en tout cas que les phénomènes extrêmes seront accentués, les sécheresses et les inondations. Donc, les problèmes de l'eau sont plus aigus.
Et des éléments dont vous n'aviez pas encore la précision à cette
époque. Non, nous avions traité des problèmes d'inondation, des problèmes de sécheresse. Donc, si vous voulez, les données restent acquises là. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est la fréquence d'apparition de ces phénomènes extrêmes. Et donc, cette variabilité va entraîner une modification des besoins des cultures et l'évolution de l'agriculture.
Et toujours sur ces questions de société, j'ai vu également qu'à la même période, vous intéressez à la biomasse et aux énergies. Est-ce que là, on est toujours de votre domaine de recherche ou est-ce que vous étiez un petit peu détourné de votre domaine principal ?
Ces questions de prise en charge de l'énergie par l'INRA sont consécutives à la grande crise de l'énergie, oui.
Crise du pétrole.
Et en fait, oui, moi j'ai été associée au groupe Biomasse Énergie de l'INRA, qui au début était piloté par Philippe Chartier. Quand Philippe Chartier a été nommé directeur de l'ADEME, Jacques Poli a pensé que c'était bien pour moi de prendre la succession, ce qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, je pouvais valoriser à la fois tout ce que j'avais fait auparavant et en plus fédérer des domaines qui étaient différents. C'était une ouverture, hein. Il y avait les aspects économiques qui étaient traités aussi. J'étais en relation avec les forestiers, enfin bon.
En 1982, nouvelle étape, nouveau moment heureux, comme vous les qualifiez, vous êtes nommé directeur scientifique à l'INRA. Comment se passe cette nomination ? Est-ce que vous aviez fait, est-ce que vous aviez rempli un dossier pour postuler à la direction ?
Absolument pas, ça a été la grande surprise. Je pense que c'est dû d'ailleurs à un contexte général. Jean-Pierre Chevènement était ministre de la Recherche à l'époque. Il avait nommé beaucoup de femmes autour de lui. Il faisait des déjeuners de femmes. J'avais été invitée. Et je pense que le PDG de l'époque, donc Jacques Poli, qui a toujours été un grand novateur, un grand précurseur, a pensé que ce serait bien que l'INRA ait une femme directeur scientifique. Et comme il m'avait sous les yeux, si je puis dire, et qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui étaient directeurs de recherche, il y avait très peu de femmes. Donc, j'ai été nommée là, à ma grande surprise. Mais en fait, ça a été très intéressant.
Et justement, alors, quelles questions vous aviez à résoudre ?
Ah, tout. Alors là, vraiment, c'était le côté stressant de l'affaire, parce que à la fois, c'était très intéressant, mais en même temps, c'était tellement chargé, il fallait faire les choses tellement vite, il fallait...
Quel dossier vous aviez en main qu'il fallait traiter ?
Mais il y avait tous les dossiers. Le plus important, c'est quand même l'animation scientifique. Mais l'animation scientifique, la part qui lui était réservée dans mon temps, était minimisée par le fait qu'il fallait s'occuper des concours, il y avait énormément de réunions, c'était assez stressant. J'ai vécu heureusement ces années-là, mais je les ai vécues aussi très stressées, parce que justement, je pensais que la partie qui était capitale, qui était l'animation de la recherche, on ne pouvait pas la traiter très bien, parce qu'il y avait trop de charges de type administratif.
Et c'était un cadeau empoisonné, cette nomination ?
Je ne sais pas, non, moi j'étais surprise, très surprise, mais en plus agréablement, parce que ça m'a donné une ouverture que je n'aurais pas eue autrement, hein, par les problèmes traités, par la problématique de la recherche. Voilà, j'ai été très contente.
Vous vous intéressez à tout ce qui est du domaine de la poésie. Est-ce à cette période-là où vous êtes directeur scientifique à l'INRA que vous écrivez un poème intitulé « Rythme ou la journée d'un directeur scientifique ».
Ah oui, c'est à ce moment-là que je l'écris, mais enfin j'écrivais des poèmes auparavant,
déjà,
bien
voilà,
sûr.
Auparavant.
Mais là, c'était ma façon d'exprimer mon stress, quoi, parce que vraiment, je trouvais qu'il y avait des choses que je passais à côté de tas de choses, quoi.
J'aimerais en lire une partie, mais je me dis qu'on a l'auteur en face de nous. Est-ce que vous aimeriez nous lire une petite strophe éventuellement ?
Oui, si vous voulez.
Ou plusieurs.
Je vais choisir. Moi, je vais choisir les strophes de la fin. Voilà. Du début, pour situer un petit peu le cadre, oui. Hein, une auban grise, soleil piégé, 48 feux, les éboueurs et les livreurs, des gens en gris, sortant la nuit. Un ascenseur problématique, l'aspirateur systématique qui chante en phare dans sa routine, l'air des matines. Des réunions en cavalcade, des commissions en débandade, et les dossiers, manger tout cru, pas digéré. Des rendez-vous en courant d'air, le téléphone autoritaire, et le courrier, tapis en loin, l'air anodin. Des notes à droite, des lettres à gauche, le vide en face. État d'urgence, rapport qui danse, liste d'attente, le premier passe. Le temps qui file entre les doigts, qu'on a perdu, comme le silence et le soleil qui étaient là, qu'on n'a pas vu. Journée remplie, rien n'est fini. Et c'est la nuit d'un soir en noir, demain viendra, etc., c'est sans espoir.
Alors, être directeur scientifique à l'INRA, ça semble très gai.
Non, mais c'est moi, c'est peut-être ma
façon. Vous semblez ému à la fois
tout à fait, oui, parce que j'ai bien vécu ces années-là et je les ai vécues aussi en années de stress. Hein, c'est pour la raison pour laquelle j'ai voulu quitter, parce que je trouvais que j'allais me déséquilibrer.
Hein. Et on sent à la fois, bien sûr, beaucoup d'humour hein, dans ces quelques lignes, et à la fois, comme s'il y avait eu, un décalage entre ce que vous pensiez de la fonction. Et le résultat, enfin, comme s'il y avait un décalage entre ce qu'on vous avait dit de la fonction et vous, ce que vous vous retrouvez à faire. Et je suppose que vous deviez y passer vos jours et vos nuits pendant quelques temps.
Oui, il y avait un décalage parce que vraiment, c'était une très belle fonction. Et je pense que je n'ai pas pu le faire très bien parce que justement, il y avait toute cette charge, toutes ces contraintes qui empêchaient. Mais je pense que maintenant, ça doit se passer mieux parce que quand même, les équipes sont plus étoffées. Et puis...
Vous restez combien de temps directeur scientifique à l'INRA ?
En
82 jusqu'à 85. Et 4 ans entre les 85 et 89, 89 qui correspond à votre élection en tant que membre titulaire à l'Académie d'agriculture de France. Pendant ces 4 ans, vous soufflez un peu. Que se passe-t-il ?
Ah oui, j'avais tout à fait décidé de ne plus m'occuper de science et de faire les choses que je n'avais pas faites dans la vie, c'est-à-dire dans le domaine social, et de développer ce que j'aimais, c'est-à-dire la musique, le sport. Alors j'ai fait ça, effectivement, pendant quelques années, mais j'ai été rattrapée, d'une part parce que quand on a passé sa vie dans le domaine scientifique, on a quand même un manque au bout de quelques temps, et il s'est trouvé, là encore un hasard, que le secrétaire perpétuel de l'époque, qui était André Caudron, est venu me chercher en me disant qu'il souhaitait que je travaille avec lui. Et donc j'ai accepté, et c'est un peu l'engrenage
de votre entrée voilà, à l'Académie d'agriculture.
Avec l'Académie d'agriculture, ce que je ne regrette pas non plus, bien sûr.
Vous prenez donc 4 ans pour vous, hein, je pense
oui,
qu'on peut le dire.
Oui, c'est ça, je prends 4 ans pour moi. Oui.
Vous soufflez, vous faites du sport, vous faites de la musique, et vous écrivez aussi,
oui,
j'imagine.
Aussi, oui.
D'ailleurs, en préparant cette émission, vous m'expliquiez justement cette notion d'unité. Il y avait bien sûr les écrits scientifiques, où ça reste très terre-à-terre, si j'ose dire, et puis également la part du rêve, la part de l'onirisme. Vous entrez donc à l'Académie d'agriculture, et rapidement, vous créez un groupe. Le groupe, alors là, on retrouve l'eau, groupe de l'eau.
Oui, tout à fait, parce que j'ai été tellement marquée par l'eau, même symboliquement, même dans ma vie personnelle, j'ai été tellement marquée par l'eau que j'ai souhaité que, et c'est un thème tellement important, que j'ai souhaité qu'on crée à l'Académie, ce qui n'existait pas, un groupe transversal, transsection, qui était voué à étudier les problèmes de l'eau. Donc ça, c'était en 92.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Suzanne Mériot. Dans la troisième partie, nous évoquerons bien sûr votre nomination en tant que président de l'Académie d'agriculture de France. Et puis nous parlerons peut-être plus en détail de vos écrits actuels. À tout de suite.
L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Troisième partie de notre émission Parcours, toujours en compagnie de Suzanne Mériot. Dans cette troisième partie, Suzanne Mériot, nous étions avant la pause à l'Académie d'agriculture de France. Dans cette troisième partie, nous sommes toujours à l'Académie d'agriculture de France et en 97, vous êtes élue et non pas nominée comme je l'ai dit avant la pause, vous êtes élue président de l'Académie d'agriculture de France, première femme à être élue dans cette académie, qui est une académie royale et qui a ouvert ses portes en 1761.
Oui, tout à fait, c'est une élection. C'était à ma grande surprise, d'abord qu'on me propose de prendre ce poste, ce que j'avais d'abord refusé en pensant que je n'avais pas du tout le profil. Et j'ai fini par accepter sous pression, je puis dire. Et je m'attendais à ce que le vote ne me soit pas favorable parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de misogynes parmi ces messieurs qui étaient très, très nombreux. Et en fait, ils m'ont élu à l'unanimité. Ça a été ma grande surprise.
Alors, peut-être une précision, effectivement. Savez-vous combien il y avait à cette époque d'académiciens à l'Académie d'agriculture et combien il y avait d'hommes et combien il y avait de femmes ?
Alors, les hommes, je ne sais pas très bien le nombre, ils étaient nombreux, puisque les femmes membres, c'est-à-dire susceptibles d'être élues présidentes, il y en avait trois, l'une qui était en province, qui donc était hors circuit, et la deuxième était l'épouse du secrétaire perpétuel, ce qui apparemment était quand même un peu délicat, donc il ne restait que moi.
Donc trois voilà. Femmes trois pour femmes. Une cinquantaine de membres, certainement.
Oh, beaucoup plus. Je crois que les femmes membres représentaient moins de 3%. Donc ça faisait plus d'une centaine de membres susceptibles d'être électeurs, parce que les correspondantes ne sont pas électeurs.
Justement, en préparant cette émission, vous m'avez communiqué un document où, dans un tableau, il y a inscrit les membres de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, de l'Académie vétérinaire, de l'Académie de pharmacie et bien sûr de l'Académie d'agriculture de France. Je ne vois pas la date, mais je suppose que c'est en 97, donc c'est un document qui a 10 ans. Oui. Mais on voit bien qu'il y a quand même un pourcentage très faible de femmes. Elles représentent moins de 3% à l'Académie des sciences, mais également moins de 3% à l'Académie d'agriculture. Alors à l'Académie de médecine, on n'en parle pas, 0,8%. Est-ce que vous pensez depuis 97, est-ce que vous pensez que, notamment l'Académie d'agriculture de France, puisque c'est votre discipline, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des efforts de fait ou une évolution en tout cas, une ouverture?
Ah oui, il y a certainement une évolution et elle est très, très tangible à l'Académie d'agriculture. Il y a un désir d'ouverture. Enfin, on n'est quand même pas à la parité et ce n'est pas du tout souhaitable puisque ça n'a, la parité n'a rien à voir avec la compétence. Hein, et il y a une ouverture et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de refaire un point actuellement. Et peut-être je le referai.
Vous êtes élu président de l'Académie d'agriculture de France en 97, une fonction que vous occupez pendant 2 ans, puisque c'est le temps attribué. Quels sont vos objectifs pendant ces 2 ans? Est-ce que vous avez des notions bien, bien précises?
Je voudrais rectifier, nous sommes élus en tant que vice-président, donc vice-président 1 an et président. Et président 1 an.
Vous faites bien de le préciser.
Oui, mais on n'a qu'un an de président. Oui, mon objectif, c'était d'abord de bien présider, puisque le président, il préside. Et j'étais quand même, ça m'était facilité par le fait que, À l'époque, il y avait un comité de lecture qui fonctionnait très, très bien. Donc, j'avais tous les documents à ma disposition pour faire une présidence de séance un peu intelligente, ce qui est difficile maintenant pour les présidents actuels qui ne disposent pas de ces documents. Et moi, ce que je pensais, c'est que, toujours dans cette espèce de souci d'unité, c'est que cette académie était trop cloisonnée en ses dissections. Et ce que j'aurais vraiment voulu, c'est de la transversalité. J'avais déjà un peu, avec le groupe O, réalisé une certaine transversalité. Depuis, il y a des groupes de travail qui se sont mis en place. Mais en un an, je n'ai pas pu, bien sûr, aller très loin. Ce sont des choses qui se font progressivement.
Mais ce sont certainement des choses que vous poursuivez à l'heure actuelle en tant que membre titulaire à l'Académie d'agriculture de France. Également, une autre académie, là, qui est une association à laquelle vous appartenez également, vous êtes membre, c'est l'Académie de l'eau. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette académie? Elle existe depuis une dizaine d'années, c'est
ça? Oui, l'Académie de l'eau doit exister depuis 96, je pense, environ, enfin, peut-être un an près. Et c'est une académie qui est, comme les académies actuelles, qui est régie par la loi des associations de 1901. C'est ça, oui. Et c'est une académie donc qui est centrée sur les problèmes de l'eau à un niveau assez général, international. Travaille beaucoup sur les bassins versants internationaux, etc. Moi, j'ai animé dans les années 97 jusqu'à 2000 et quelques un groupe de travail de l'Académie de l'eau qui s'appelait Gestion de l'eau et des territoires ruraux. Et nous avons fait un bon travail qui s'est terminé par un atelier, enfin un colloque d'une journée, qui était très, très fécond et très apprécié. Alors depuis, donc, j'ai eu d'autres occupations. J'ai cessé l'animation de ce groupe et l'Académie de l'eau continue à fonctionner. Mais je ne fais plus partie je n'ai plus le temps de faire partie de leur groupe.
Pour terminer cette émission, revenons sur la présentation de départ où j'évoquais deux ouvrages que vous avez publiés. Le premier, Science et poésie, deux voies de la connaissance. Et le second, Et l'homme apparu, une lecture de l'histoire de l'homme, et également une publication récente en 2007. Et ça sera peut-être l'occasion de parler de ce fameux positionnement cosmique dont vous m'avez parlé en préparant cette émission. C'est donc cette fameuse unité entre la science et la littérature.
C'est pas vraiment une unité entre la science et la littérature, c'est la convergence vers quelque chose qui est unique, qui est le réel, qui est l'être en quelque sorte, et on converge par des voies différentes. Donc il y a la voie rationnelle et puis il y a la voie sensible. Donc c'est ce que j'ai traduit dans le livre Science et poésie, deux voies de la connaissance, et c'est vraiment la recherche d'une unité. Et qui rejoint un petit peu le sentiment général qu'on peut avoir d'opposition entre les domaines de recherche, entre les personnes, par leur ethnie, par leur religion, et alors que tout le monde a la même aspiration à la beauté, à l'absolu, et donc voilà.
Qu'il y a une unité sans que pour autant il y ait une confusion.
C'est ce que vous m'indiquiez. Il y a convergence vers une unité. Voilà.
Entre le corps et l'esprit.
Voilà, c'est ça.
Et donc ce fameux positionnement cosmique, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? C'est ce qui fait votre vie de tous les jours?
C'est ce qui fait ma vie de tous les jours. Ça paraît peut-être prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout. Moi, je vis comme une petite unité dans le cosmos. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est justement de montrer comment cette petite unité, elle pouvait essayer de rejoindre cette unité cosmique générale. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire tout le temps.
Aujourd'hui, Suzanne Mériot, est-ce que vous avez des activités peut-être à l'heure actuelle dans le domaine encore de l'eau, ou peut-être des projets à venir, ou est-ce que vous essayez de revivre pour vous ce que vous avez fait pendant un temps quand vous avez quitté la direction scientifique de l'INRA?
Vous savez, quand on a quitté un domaine de recherche, quand on a quitté son métier de chercheur, il faut savoir, enfin moi j'en ai pleinement conscience, qu'on cesse tout de suite, très rapidement, d'être expert. Donc moi je ne cherche pas du tout Je m'entretiens scientifiquement, je lis des revues, tout ça, mais je n'ai plus aucune compétence réelle dans mon domaine de recherche. Alors, ce que j'essaie, c'est d'avoir du recul par rapport aux recherches actuelles, ce qu'on peut lire, ce que les jeunes chercheurs étudient, et de le mettre sur un plan un petit peu différent, quoi, un peu au-dessus, quoi. La réflexion, voilà.
Eh bien, je vous remercie, Suzanne Mériot, de nous avoir rendu visite à Canal Academy. Et puis, merci de votre amabilité, de votre gentillesse. J'invite nos auditeurs, bien sûr, à aller sur le site de Canal Academy pour télécharger d'autres émissions, en plus de celle-ci, et notamment une émission avec Daniel Zimmer, qui était venu à l'Académie d'Agriculture de France et avec qui nous avons réalisé une émission éclairage sur la gestion économique de l'eau. J'en reparle puisque l'eau nous a... Oui. A été notre fil conducteur tout au long de cette émission. Merci beaucoup et puis peut-être à une prochaine fois pour une émission prochaine. Au revoir.
Au revoir.